Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous partons au Congo, nous recevons le lauréat du prix Kuruma et nous allons vous parler d'un livre qui pourrait changer votre vie. Le prix Kuruma sera remis la semaine prochaine au Salon du Livre de Genève, où nous serons par ailleurs pour une émission spéciale. Wilfried Nsondé est le lauréat pour un livre incroyable, une épopée sur l'océan à travers trois continents au temps des pirates. Nous allons vous raconter une histoire vraie qui va vous éblouir. Toujours les racines africaines autour du Congo, mais à une autre époque, l'écrivain belge Jean-Pierre Orban ose un roman sur la quête de l'identité entre l'Afrique et l'Europe, une mère puis son fils qui perdent leur repère. C'est une histoire terrible, elle aussi. Bonjour Jean-Pierre Orban.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, merci.
Sans racines, sans filiation, c'est le cas de vos personnages. On part dans, avec quel genre de handicap dans la vie ?
On part avec rien justement, il faut tout construire. C'est sans doute ça la question du roman.
Tout commence là.
Tout commence là et peut-être tout finit là
et
aussi.
Peut-être, oui, tout se termine malheureusement là. Bon, Jean-Pierre Orban, vous allez rester avec nous tout au long de l'émission et on vous retrouvera tout à l'heure dans la troisième partie. Et puis nous serons avec Joël de René, grand scientifique qui a marqué notre époque avec ses livres sur la systémique et la prospective. Il publie la Symphonie du vivant et il démontre que l'on peut modifier son ADN par notre mode de vie et ainsi prendre le contrôle de notre corps et de notre avenir.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme d'habitude, quatre libraires sont avec nous en multiplex. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous ?
Bah écoutez, ça va super.
Oui. Dans la chaleur.
La chaleur,
dans la
c'est
France.
Quasiment l'été, on est,
quasiment
est très bien
pas
là.
Partout, hein, parce que le Canada est encore dans le froid,
ah,
mais
paraît, ouais.
Certains pays. Oui. Vous représentez donc la France cette semaine, vous êtes libraire à côté de Paris, à Puteaux.
Oui, c'est ça, Puteaux.
Enfin, c'est quasi Paris, hein, puisque vous êtes à proximité de La Défense, le plus grand quartier d'affaires d'Europe. Ça vous fait rire ?
Oui, c'est ça, c'est la librairie Lamandier. Quasi à côté voilà. De Paris.
Jérémy Laniel, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez donc le Canada dans La Fraîcheur, libraire à Rosemère dans la librairie Carcajou. Tout va bien Jérémy ?
Tout va toujours bien quand je suis avec vous Emmanuel.
On est heureux de l'apprendre. La Belgique, la Belgique noblement représentée aujourd'hui par Annick Dor. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes
bonjour.
Libraire, vous, dans la librairie de la Mazerine à la Hulpe. Et on retrouve aussi Claire Renaud, qui est libraire dans la librairie L'Atmosphère à Genève. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Vous allez bien sûr intervenir tout au long de l'émission. Bonjour Joël de René.
Bonjour.
Nous aurons une conversation passionnante tout à l'heure, d'ici une quinzaine de minutes, avec des révélations scientifiques étonnantes qui vont peut-être changer notre vie. Mais on commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote personnelle que je découvre d'ailleurs en même temps que tout le monde. Vous avez carte blanche, Joël. Que voulez-vous transmettre ?
Je sors de la Cité des Sciences où je travaille, il y a un grand parvis, devant moi il y a une trentaine d'étudiants, genre terminale, 15-17 ans, avec leurs profs. Comme ils ont l'air enthousiastes, je me dirige un peu vers eux, ils me regardent avec un air un peu émerveillé, ils me disent « Monsieur, merci pour tout ce que vous faites, on écoute vos émissions, on comprend tout, on lit vos articles, on lit vos livres, et sortent des papiers, alors je vais vers eux, sans doute parce qu'ils veulent signer un autographe. » Oui, continuez monsieur de Closé, merci mille fois.
Et c'est à l'époque où il faisait des émissions de Closé. Grand journaliste français, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas à travers le monde, et qui a fait...
Sur l'espace.
Beaucoup, voilà, beaucoup d'émissions
François
scientifiques.
De Closé, grand ami d'ailleurs.
On vous a confondu.
Complètement.
Ça vous a vexé ou pas ?
Non, pas du tout. On a autre chose. Je me suis dit, voilà, ça me remet à ma place.
Est-ce que vous avez signé ? Parce qu'on nous a déjà raconté ce genre d'histoire avec
j'ai
des auteurs
François de Closé,
qui étaient pris pour quelqu'un d'autre et qui signaient au nom de la personne pour laquelle ils étaient pris. Non, pas du
non,
tout.
Non, pas du tout.
Bon. Joël de René est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Wilfried Nsondé.
Bonjour.
Votre nouveau roman Un océan, deux mers, trois continents vient d'obtenir le prix Kuruma, prix qui vous sera remis la semaine prochaine au Salon du Livre de Genève. Salon, donc je le disais tout à l'heure, où nous serons en public pour une émission exceptionnelle, enregistrement vendredi 27 à 14h au cœur du salon. On vous y attend nombreux. Votre roman est incroyable Wilfried, l'écriture est sublime, l'histoire qui est une histoire vraie est magnifique. Nous verrons ce que nos libraires en pensent. On est en 1604, en Afrique, dans le royaume du Congo.
Oui,
Congo avec
oui.
Un K. C'est où le Congo avec un K ?
Le Congo avec un K, c'est le pays des Bas-Congo qui aujourd'hui engloberait le nord, la moitié nord de l'Angola, le sud de la République du Congo et le sud-ouest de la RDC.
Et le Gabon, c'est une partie du Gabon.
Une partie du Gabon, et le Cabinda aussi, voilà. Bon, les frontières n'étaient pas très claires, elles étaient assez fluctuantes, voilà. C'était une autre conception de l'État.
Oui, territoire très vaste. Et le Portugal, à l'époque, va nouer un accord avec le roi pour la traite des esclaves.
Oui, oui, alors on le sait peu, mais il y a eu plusieurs périodes de la traite. Et au début de la traite, c'est un commerce dans lequel sont impliqués les noblesses du Portugal et les noblesses du Congo.
Ouais, le roi du Congo, quelques temps plus tard, va réaliser le désastre. Et il voit son pays sombrer dans la corruption et la gangrène de l'esclavage. Alors il va nommer un prêtre ambassadeur pour intervenir au Vatican auprès du pape afin que les Européens abolissent l'esclavage qui est effectivement en parfaite contradiction avec la religion catholique.
Voilà, oui, c'est le point de départ de cette histoire-là. Moi, j'étais assez fasciné de réaliser qu'en 1604, le pape voulait qu'il y ait un ambassadeur africain au Vatican. Ça me semblait avant complètement improbable. Donc, c'est important de préciser que c'était à l'initiative du pape. Et qu'à cette époque-là, on n'en était pas encore à définir les êtres humains selon leur couleur de peau. Puisque les théories de la race, c'est fin du XVIIIe siècle. Donc, on vendait des êtres humains.
Quels qu'ils soient.
Voilà.
À partir du moment où vous étiez faible, c'est ça?
Oui, voilà, c'était une question de conditions sociales. C'était aussi une conception de l'humanité. Si la Révolution française était si importante que ça, c'est qu'avant cela, personne ne considérait que les êtres humains étaient égaux en droit. Il y avait une espèce d'inégalité fondamentale qui est acceptée par tous, et même au Congo.
Alors, il y a un prêtre qui va être nommé. Cet homme, c'est Antoine Emmanuel Lensaku Nevunda, baptisé Don Antonio Manuel lorsqu'il est ordonné prêtre. Il anime une petite communauté catholique à la campagne. Alors, il s'attend pas du tout à ça. Et il est désigné pour prendre un bateau et aller vers Rome.
Oui. Oui, c'est, j'aime bien cet aspect-là d'un jeune prêtre simple, naïf, qui va aller affronter comme ça les périls les plus importants de son époque, l'océan, l'esclavage, l'inquisition plus tard, les pirates.
Oui.
Voilà, c'est un héros. Et moi, ce qui m'a fasciné dans ce personnage-là, c'est qu'il est dit, dans les rares textes qui parlent de lui, que quand il est arrivé à Rome en 1608, malgré tout ce qu'il avait vécu, le pape était impressionné par la profondeur de sa foi.
Ouais.
Et là, je me suis dit, cet homme est fondamentalement exceptionnel.
Il incarne la foi véritablement, il devient saint. Alors, on va pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est au cours de ce voyage qu'il va réaliser à son tour l'ampleur du désastre. À bord, il y a de la marchandise humaine, des esclaves qu'il faut livrer à Lisbonne, car comme vous le dites, le bateau va d'abord vers Lisbonne, avant de partir pour Rome, le Brésil d'abord, puis Lisbonne. Il y a 300 personnes, hommes, femmes, enfants, qui souffrent dans les cales du bateau, et il assiste comme ça à la déshumanisation des siens et il ne peut rien faire.
Oui, c'est quelque chose aussi qui me tenait à cœur parce que c'est très contemporain aussi. On peut observer des drames, mais on est impuissant. Et donc, mais sur le bateau, il observe la souffrance des esclaves, mais il observe aussi la souffrance des matelots. On l'oublie, mais il y avait sur les bateaux qui transportaient des esclaves, la mortalité des équipages était parfois plus importante que celle des esclaves pour une raison simple. Les esclaves rapportent, les matelots coûtent. Donc dans cette organisation économique, il faut faire des bénéfices.
Et des choix donc. C'est-à-dire que la nourriture est rationnée pour les matelots et les conditions sanitaires ne sont pas en rendez-vous pour les matelots, effectivement.
Voilà, il y avait un médecin pour les esclaves, il n'en avait pas pour les matelots.
On va écouter la BO du roman Wilfried Nsondé. Vous avez choisi la musique qui illustre le mieux votre roman. C'est la musique du Congolais Franklin Bukaka. Et ensuite, Jean-Pierre Orban et Joël de René, les deux, c'est une surprise pour vous, liront donc à deux voix un extrait de votre livre. Attention, moment intense dans les conditions du direct. Écoutez la musique d'abord de Franklin Bukaka.
Africa, oh, dipanda.
le navire, je dépérissais. Le monde s'était rétréci aux dimensions de l'espace, compris entre la poupe et la proue. Les contours du vent paraclet s'étaient refermés sur nous tous. Nous étions cloîtrés sur l'Atlantique dans une miniature d'humanité, où Dieu, vêtu d'un habit de capitaine de vaisseau et de souliers vernis à boucles d'argent, était coiffé d'un tricorne noir. Un tyran qui passait le plus clair de son temps à commander, à menacer et à châtier ses subalternes.
Mes anciens repères s'ébranlaient chaque jour un peu plus. Mes certitudes avaient toutes volé en éclats. Le Créateur s'était absenté. Il n'existait plus de terre où séjournaient les esprits de mes ancêtres défunts. Personne auprès de qui j'aurais pu obtenir le secours de conseils bienveillants à l'aide d'offrandes et de libations. À leur place, pourrissait sous mes pieds une multitude de morts vivants anonymes qu'il m'était impossible de secourir.
Cette lecture de Joël de Ronet et Jean-Pierre Orban, donc cet extrait de Wilfried Nsondé, votre Merci. Livre « Un océan, deux mers, trois continents ouais. ». Pas mal.
Ouais, non, c'est
difficile à deux, mais on enchaîne l'un sur l'autre, mais c'est ça le principe de la radio et du direct. Alors, oui, vous êtes un peu ému.
Ouais, ça fait beaucoup d'émotions. En même temps, les lectures, la voix de Franklin Bukaka qui dit ouais. « liberté » dans ouais. le contexte, ouais, c'est ouf. Il faut que je me remette là un peu. Merci en tout cas, merci.
Bon, je sais pas si vous allez vous remettre, on va écouter nos libraires maintenant. La torture continue avec trois libraires qui ont lu votre livre, Wilfried. Le Canada, la France ou la Suisse, on commence par qui?
La France.
Il a peur de Thomas Hossert et il a raison. Thomas, je me souviens que vous aviez critiqué ce livre à l'antenne il y a quelques semaines.
Oui, c'est vrai. Alors, c'était une déception, hein. C'était pas un coup de gueule.
C'était votre déception de la rentrée 2018. Hein.
Oui, c'est ça. Alors, parce que moi, au départ, Wilfried, le sujet de votre roman, l'époque, l'histoire de ce personnage que j'ai découvert, m'ont fasciné. Mais par contre, j'ai été gêné en fait par la rudesse du voyage, donc de ce commerce triangulaire, la dureté des conditions, ça m'a un peu bousculé aussi. Alors après, les interrogations, peut-être un petit peu trop nombreuses aussi du héros sur sa foi et sur l'humanité, m'ont aussi peut-être un petit peu décontenancé. Après, par contre, le sujet m'a plu et puis l'écriture, enfin oui, ça j'ai adoré votre écriture.
Bon, vous retournez un petit peu votre veste, positivement.
Oui,
ouais,
c'est vrai.
C'est bien, c'est vrai. Il a relu du coup, on lui a fait relire. Jérémy Laniel au Canada, quand pensez-vous?
Bien, j'en pense qu'il faut persévérer hein, dans ce livre. C'est un livre total qui semble assez touffu au départ, tant avec les lieux, les différents personnages et en plus du mariage des genres, un peu, j'ai l'impression, auquel l'auteur nous convie. Mais on retrouve le lyrisme que j'avais aimé dans les précédents livres de Nsondé. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le lyrisme est au service d'une histoire beaucoup plus ambitieuse, nécessaire. Effectivement, comme le dit Thomas, c'est dur à lire, mais on en prend une claque, mais avec grand plaisir.
C'est pas si dur à lire que ça. Je vous assure qu'on en lit des bien plus difficiles. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Claire Renaud pour la Suisse.
Oui, moi j'ai trouvé surtout que c'était un très beau chant d'espérance.
Bah oui.
Il émane de la poésie, en fait, à chaque page, malgré justement cette cruauté et les horreurs que vit ce personnage. Un personnage absolument magnifique, grâce auquel on garde espoir. Donc pour moi, c'est un appel à la tolérance et c'est tout à fait d'actualité.
Oui, c'est vrai que c'est un appel à la tolérance, Wilfried Nsondé. Cette douleur des siens va le consumer, votre personnage, ce jeune prêtre. Il va emmagasiner la souffrance et se souvenir finalement de ce naufrage de l'humanité, comme ça, tout au long de son voyage, qui va durer 18 mois. Il va arriver au Vatican. Le pape Clément VIII est mort, alors que c'est lui hein, qui avait demandé à ce qu'on lui envoie un ambassadeur. Oui. Il y a un autre pape et l'accueil n'est pas celui espéré.
Non, alors je tairai les détails parce qu'il faut que le lecteur découvre hein, tout ça. Enfin, j'avais envie que ce livre soit un roman d'aventure.
Oui, c'est ça. Hein, c'est le cas hein, d'ailleurs.
Oui, parce que effectivement le contexte est dur et ce qui est encore plus dur, c'est que quand on fait des recherches sur l'esclavage et sur l'inquisition, mesdames et messieurs les libraires, en réalité c'est beaucoup plus dur que ce que j'ai écrit. Voilà, il a fallu faire un choix pour être voilà. Donc c'est Et c'est toujours la question, mais je pense que, vous savez, c'est Proudhon qui disait, si on veut en finir avec la guerre, encore faut-il l'avoir comprise. Ouais. Et si on veut en finir avec l'esclavage, il faut l'avoir compris, il faut en parler comme c'est.
Ouais.
Voilà. J'ai beaucoup travailler ce moment de la rencontre entre ce prêtre et le pape comme une espèce d'aboutissement et qui est un mélange de déception mais aussi d'espérance.
Voilà, et puis c'est un message d'espoir et de tolérance parce que vous montrez finalement que à partir du moment où on accepte l'autre, où on accepte ses différences, eh bien on est dans l'apaisement. Et on peut vivre des moments difficiles, on peut être dans la survie comme votre personnage, et si on accepte l'autre, eh bien ça va un tout petit peu mieux parce qu'il y a ce matelot qu'il rencontre. C'est une belle histoire d'amitié, amour. Il rencontre un matelot et puis ils ont des accointances tous les deux, ils vont se soutenir tous les deux, et le prêtre dira, Antonio Manuel dira, nous avions bâti quelque chose qui nous dépassait, une minuscule église au sein de laquelle nous partagions une empathie réciproque, une inclinaison particulière l'un pour l'autre. Et c'est l'affection qui parfois nous sauve.
Oui, et c'est dans ce livre, à côté de tout ce que je dénonce, hein, la surexploitation, la soumission, l'esclavage, c'est important de proposer une humanité qui, moi, m'intéresse, et c'est l'humanité d'amitié et d'amour. J'ai fait une retraite dans un monastère pour écrire ce livre, et c'est un des frères qui m'a dit, mais vous savez, Dieu est amour, et la vraie Église, elle commence à deux. Voilà, dans l'amour. Et ça m'a beaucoup plu. Et j'avais envie d'insuffler ça dans ce livre. Pour moi, l'espoir est là, de voir dans l'autre une chance d'amour, d'amitié.
L'îlot de résistance qu'on peut construire à deux, quelle que soit la personne.
Voilà.
Merci beaucoup, Wilfried Nsandé. Merci infiniment. Un océan, deux mers, trois continents est paru aux éditions Actes Sud et c'est le prix Kuruma 2018. Vous serez la star du Salon du Livre de Genève le week-end prochain. Merci beaucoup, je viendrai vous surveiller.
Merci, je me tiendrai à carreau.
Et à suivre, un livre qui va peut-être changer votre vie. Discussion passionnante en perspective avec le grand chercheur Joël de René. On écoute le tube francophone de la semaine avec une chanteuse que vous allez reconnaître au premier son de sa voix et un titre composé par Mathieu Chédid.
Tu demandais hier mon avis sur le tu n'y vois
Vous l'avez reconnu ?
Je ne suis pas sûr.
Si.
Oui, Joël de René ?
Non mais si, Vanessa Paradis. Non mais vous jouez, Joël ?
Pas trop.
Vous n'aimez pas trop ? D'accord. Bon, pourtant, donc, le titre sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la Première,
RTBF la Première.
Ici Radio-Canada Première,
France Inter.
Sans Vanessa Paradis, Joël de René est dans la librairie francophone pour son nouveau livre, La Symphonie du Vivant. Joël de René, grand scientifique et professeur, référence dans le domaine de la prospective et de l'approche systémique, un principe qui vise à globaliser le corps humain, la société, l'écosystème et l'entreprise. Un système détaillé d'ailleurs dans votre livre Culte le macroscope. Vous êtes né sur l'île Maurice, pionnier de la pratique du surf en France. Et tout ce parcours, Joël, se retrouve dans votre dernier livre, La Symphonie du Vivant. On a vraiment l'impression de lire ça comme une suite du macroscope, comme un résumé de votre vie aussi, mais en plus accessible peut-être, en plus grand public.
Oui, c'est vrai, j'essaye de vulgariser de plus en plus pour faire en sorte que les gens se sentent impliqués. En fait, il y a un message dans mon livre, c'est oui, vous pouvez être responsable. On dit, j'y peux rien, c'est génétique, je suis déterminé, je peux rien faire. Alors, la grande découverte de l'épigénétique dont je parle dans ce livre, c'est justement qu'il n'y a pas que la génétique qui nous programme, on peut aussi exercer une action sur l'expression de la manière dont nos gènes s'expriment.
Avec l'épigénétique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique ? Vous l'expliquez sur Internet, Joël. Nous en avons fait un petit montage, très court, et vous allez tout comprendre en 40 secondes.
L'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes en fonction du comportement. Votre comportement quotidien, ce que vous mangez, si vous faites de l'exercice ou pas, si vous savez manager ou non votre stress, si vous avez du plaisir dans ce que vous faites, et si vous avez un réseau social et familial qui marche bien. Ces cinq éléments, combinés entre eux, vont conduire à la production dans votre corps de petites molécules qui vont s'accrocher à des enzymes, lesquelles vont rentrer ou être reconnues. Dans le noyau où il y a l'ADN, il y a des gènes qui s'expriment, des gènes qui sont silencieux, des gènes qui sont inhibés. Et ça dépend de notre comportement. Oui, vous pouvez faire quelque chose pour vous.
Tout est là, Joël de René. C'est ce que vous appelez la symphonie du vivant.
Oui, le titre n'est pas neutre. Le titre, ça veut dire qu'on peut être le chef d'orchestre de son propre corps en mettant nos organes en harmonie en fonction de notre comportement. Malheureusement, il y a aussi les comportements involontaires. Si je vis dans une ville où il y a une atmosphère polluée par le diesel, ou bien s'il y a trop de bruit, là aussi, mes gènes vont être influencés par ça et s'exprimer plus ou moins ou pas du tout.
Mais vous allez assez loin parce que vous dites que notre ADN peut être influencé par notre environnement personnel, celui-ci.
Oui,
ça veut dire qu'on peut agir sur la modification de son ADN ?
Cinq moyens. La nutrition, l'exercice régulier, le management du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait, et l'harmonie du réseau familial, social, professionnel, secrètent dans nos corps, comme je l'ai dit plusieurs fois, des éléments qui vont ouvrir ou fermer des tiroirs génétiques, comme des clés ouvrent et ferment des tiroirs.
Oui, mais on croyait que l'ADN, c'était immodifiable.
Voilà, mais il n'est pas modifiable. On ne change pas le code génétique.
D'accord.
Ce qu'on change, c'est l'expression des gènes.
D'accord.
C'est un peu, si vous voulez, comme sur votre smartphone ou votre iPad, vous avez un système
tablette.
De... Une tablette, un système d'exploitation, l'OS, Operating System.
Oui.
Et dans ce système d'exploitation, vous pouvez utiliser des applis. Ces applis vont moduler le système d'exploitation et vous permettre d'avoir des fonctionnalités différentes. Ben, l'épigénétique, c'est un peu ça. Votre système d'exploitation, c'est votre ADN, vous naissez avec, vous ne pouvez pas le changer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir des applis qui vont vous donner des fonctionnalités différentes.
Et alors, ça existe déjà dans la nature, ça. Cette capacité de modifier un petit peu l'ADN. Vous entendez derrière moi des abeilles.
Oui, les abeilles, les fourmis.
Les fourmis aussi.
Les plantes.
Les abeilles qui illustrent parfaitement, selon vous, le principe d'épigénétique. Elles naissent toutes avec le même ADN, mais cet ADN évolue au cours de leur vie.
Si on leur donne à manger de la gelée royale, qui contient de l'acide folique, cet acide folique produit des substances, comme des substances méthylantes, qui vont aller sur l'ADN et bloquer certains tiroirs et empêcher des gènes de s'exprimer, ou permettre à d'autres gènes de s'exprimer beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que la larve va devenir une reine, elle vit plus longtemps, elle pond des œufs, elle est plus grosse.
Donc c'est la nutrition aussi, là.
C'est l'alimentation, encore, c'est l'alimentation spécifique.
Alors effectivement, Joël de René, le défi, c'est de savoir manager son corps et de vieillir jeune en bonne santé plutôt que simplement vivre plus vieux.
C'est pas intéressant de vivre plus vieux.
C'est ce que
ce
vous
expliquez.
Ce qui
est intéressant, c'est de vieillir jeune.
Et la nourriture est l'acteur essentiel de l'épigénétique. Il faut écouter son corps. Alors pour la nutrition, vous déclinez un petit régime. Pas si simple à suivre, Joël. Un grand verre de jus de grenade bio tous les matins. Jamais de viande transformée, pas de charcuterie. Il y a plein de choses comme ça. Enfin, le jus de grenade bio, déjà, ça coûte très cher, puis il faut le trouver. Quoi.
C'est pas très cher, et puis c'est pas
si
très
c'est
bon.
Très cher.
Au goût.
C'est un peu, oui, c'est un peu âpre. Mais c'est, si, c'est assez cher. Mais c'est vrai que c'est difficile quand même de suivre votre régime, non?
Non, c'est pas difficile. On peut trouver ça partout. Il y a plein de trucs qu'on peut acheter sur Internet. On peut acheter des produits bio. On peut surtout acheter des légumes et des fruits colorés, parce que tout ce qui est coloré contient des flavonoïdes, qui sont des antioxydants, des anti-inflammatoires. Donc, manger coloré. Manger coloré, ça préserve votre vie, ça ralentit le vieillissement.
La perception aussi, hein, des sons, la perception de la vie, c'est très important.
Bien sûr, c'est important d'écouter les autres. Ce que je dis aussi beaucoup, c'est de parler de ce qu'on fait. C'est-à-dire, bien entendu, il faut dire aux enfants, lisez, il faut lire. Mais il ne faut pas lire que pour soi. Il faut lire, il faut partager ce qu'on a lu. Ce qui est important, c'est de dire, de raconter. On comprend mieux. D'ailleurs, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner.
Et vous dites écouter de la musique aussi. Et la capacité que nous avons tous à produire des émotions, je dirais presque, en tout cas à ressentir des choses, tous en même temps, lors de certaines musiques symphoniques. On perçoit des choses tous en même temps quand on écoute ce genre de musique.
Ça donne des frissons. Ouais. On dit que la musique adoucit les mœurs. Elle agit certainement au niveau épigénétique aussi. Comme les végétariens, ceux qui mangent que des légumes, des fruits, ils ont une façon différente de vivre, ils sont différents, leur caractère est différent. Donc c'est un rôle épigénétique qui exprime certains gènes et en éteint d'autres.
Ouais. Et ça, c'est la notion d'harmonie aussi. Alors, l'harmonie familiale et sociétale. Terminer les conflits de famille, les disputes entre amis, c'est possible, ça?
Pas terminer, essayer de les réduire.
Oui, c'est ça.
La communication non violente, ça existe, hein, ça
oui,
s'enseigne.
Mais, oui, mais vous nous inquiétez un peu, Joël, parce que vous nous dites que sans cette harmonie familiale, on ne peut pas arriver finalement à contrôler son corps et à être dans l'épigénétique.
Non, je ne dis pas sans, je ne suis pas binaire.
Ah, bah, quasi.
Non, non, j'ai une vision
vous
complémentaire.
Vous le dites plusieurs fois.
Non, non, j'ai une vision complémentaire. Je dis, si on ne respecte pas cette harmonie familiale, il y a un risque à ce moment-là que son stress beaucoup plus. Regardez les problèmes d'héritage dont on parle tellement en ce moment. Il y a un stress qui se construit et le stress conduit à l'inflammation et à l'oxydation du corps.
Ouais.
Et l'inflammation et l'oxydation, c'est les deux éléments qui nous font vieillir le plus vite et qui nous rendent malades. Donc le stress est la cause de beaucoup de choses et l'inflammation, la cause de beaucoup de choses aussi.
Et les autres peuvent nous rendre malades.
Les gens peuvent, on le dit d'ailleurs, il me rend malade, elle me rend malade. Donc j'ai même un chapitre qui s'appelle « Ils me rendent malade ». Donc ce qu'on te parlait des maladies psychosomatiques, maintenant on a la preuve avec l'épigénétique que ça existe. On disait l'esprit influence sur le corps. On a dans notre intestin des neurones. Il y a 100 millions de neurones dans l'intestin. On les appelle même le cerveau entérique. Donc on dit que ces gens me rendent malade, ça me porte sur le ventre ou ça me porte sur l'intestin. C'est vrai. C'est prouvé scientifiquement maintenant.
Et alors, à contrario, vous expliquez aussi qu'il n'existe pas de couple heureux ou de relation affective durable sans conflit chronique. Vous écrivez « L'absence de conflit serait le signe d'un fossé émotionnel susceptible d'inhiber toute relation véritable et profonde ».
Ça a été aussi démontré par des psychosociologues. Ouais. C'est que trop de conflits crée trop de stress, mais pas de conflit du tout n'est pas bon du tout.
Non.
Il faut pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on a sur le cœur.
Il faut pouvoir se retrouver.
Bien sûr, on se retrouve parfois dans la dispute.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, ça rétablit la situation parfois.
Ça rétablit la situation.
Et ça intensifie la relation à l'autre.
Et ça conduit à des arguments d'explicitation de pourquoi on le fait, en évitant les mots comme toujours, jamais et tu le fais tout le temps. Si on évite ce genre de mots, on évite la CNV, la communication non violente, qui fait l'objet d'études spécifiques et d'enseignements spécifiques dans le monde entier.
Bon, disputez-vous, mais pas trop. Deux libraires sont avec nous, Joël de René, la Belgique et la Suisse. On commence avec vous, Annick Dor, à la Hulpe. On ne va pas se disputer, mais allez-y, dites-nous ce que vous en avez pensé.
Alors moi j'ai trouvé l'ensemble du livre très instructif et tout à fait passionnant. Alors c'est évidemment fantastique de se dire qu'il y a moyen d'agir par nous-mêmes sur nos gènes. Maintenant, au-delà de la difficulté de tenir dans la durée, de bien manger, de faire du sport, etc. Mais je me dis que ça implique un niveau d'instruction suffisant. Ça me paraît compliqué, donc j'ai l'impression qu'il y a un côté un tout petit peu peut-être... élitiste, enfin le mot n'est peut-être pas exactement celui que je voulais trouver, mais enfin voilà. Et alors je suis aussi moins optimiste que vous sur l'impact de l'épigénétique au niveau sociétal, parce que de nouveau je trouve que ça implique des citoyens motivés, conscients des enjeux et puis acteurs. J'ai envie d'y croire parce que c'est fantastique tout ça, mais j'ai quand même quelques doutes.
Vous avez raison d'avoir des doutes parce que je dis souvent que le plus important c'est d'avoir envie. C'est-à-dire, moi, j'essaye de motiver les gens sur la responsabilisation. En fait, mon livre est un livre sur la responsabilisation pour soi et la responsabilisation collective vis-à-vis de ce que j'appelle l'ADN sociétal. Donc avoir envie, c'est fondamental pour en avoir du plaisir de faire ce qu'on fait. La privation, la prévention n'est pas la privation. Et quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, on a envie de le communiquer aux autres et de les motiver. Donc toute l'histoire est en fait un cercle vertueux. Convaincre les gens que c'est bon pour eux, que ça leur fait plaisir, de manière à ce qu'ils arrivent à convaincre d'autres personnes.
Claire Renaud, pour la Suisse, vous voulez intervenir?
Oui, je suis d'accord avec Annick, c'est vraiment une source de renseignements et vous avez le mérite d'être claire et pédagogue. Alors, moi aussi, j'ai envie de vous suivre et de rendre le monde de demain plus harmonieux, plus sain et plus solidaire. J'imagine qu'en vous suivant, ce sera le cas. Et je trouve justement que votre ouvrage, il est positif parce qu'il nous incite à vous suivre. Alors j'espère qu'il y a un maximum de gens qui vous liront.
En tout cas, j'aime beaucoup qu'elle dise que c'est positif. Parce que oui, vraiment, je récuse la notion d'optimisme ou de pessimisme. Parce que quand on est optimiste ou pessimiste, binaire, on s'enferme dans une bulle et on se défend en permanence. Je reste optimiste ou je reste pessimiste. Tandis que d'être positif, c'est la dynamique du mouvement. On bouge. Pas pareil.
Beaucoup d'informations, hein, Joël de René, dans ce livre. On apprend par exemple que le poids total des bactéries hébergées dans notre corps est supérieur au poids de notre cerveau.
Absolument, c'est plus de 5, presque 5 kilos. Il y en
5
a
kilos.
100 000 milliards. Pour vous donner une idée, on a 6 000 milliards de cellules. Rappelez-vous, on est 7 milliards d'habitants sur la planète. Mm-hmm. 6 000 milliards de cellules, c'est 1000 fois plus. Mm-hmm. Ça, c'est les cellules du corps, les cellules de foie, les cellules de muscle, les cellules de rein. Mais dans notre côlon et dans d'autres endroits de notre corps, dans le cuir chevelu, sous la plante des pieds, dans les aisselles, dans le vagin, il y a 100 000 milliards de micro-organismes positifs. C'est des bons microbes. Ouais. Ils jouent un rôle fondamental dans notre santé, dans le ralentissement du vieillissement. Ils produisent des vitamines, ils produisent des produits qui nous permettent de lutter contre d'autres virus ou d'autres bactéries. Donc je dis souvent que quand on mange équilibré, il ne faut pas seulement penser à nous, il faut penser à notre microbiome, il faut rendre notre microbiome heureux.
5 kilos de bactéries pour 2 kilos, hein, le cerveau, je crois. 2 kilos.
2 kilos et demi, 3, presque 3.
Ça dépend qui. C'est ça. Bon, il faut s'apaiser, Joël de René, et même se caresser entre nous. Le professeur Michael Minet de l'université McGill de Montréal a fait des recherches qui montrent que de simples caresses ont le pouvoir d'influencer nos gènes.
Alors non, mais c'est vrai. D'ailleurs, on a montré que les caresses chez les animaux. Ouais. C'est les souris qui sont caressées par leur maman. Ils ont des hormones de stress beaucoup moins prégnantes que d'autres. Et quand ils transmettent à leurs enfants, les petites souris, des éléments de positifs, parce qu'ils ont sécrété de l'ocytocine, de la vasopressine, de la sérotonine, toutes ces hormones sont les hormones du plaisir, les hormones du bonheur, ça existe.
Elles se caressent entre elles, les souris.
Mais oui, bien sûr, on peut le mesurer. Mais de câliner un enfant, de se caresser nous-mêmes sur la peau, ça a un effet très important et même un effet épigénétique, puisqu'on peut mesurer les résultats de cela en mesurant les hormones du plaisir dans le corps.
Bien sûr, oui.
Elles existent, elles sont là.
Wilfried se marre, mais...
Non, parce que je pensais à Balance ton porc. Les gens commencent à se caresser... Partout
à tous,
dans le
partout,
ça risque de mal finir.
Oui, c'est sûr qu'on risque d'avoir des problèmes. Mais bon, il faut écouter la librairie francophone et tout le monde se caressera demain, partout où qu'on soit dans le monde. On va commencer dès la fin de l'émission. Vous parlez des médias, Joël de René, qui ont un grand rôle à jouer. Vous dites qu'il faut penser au public et l'intégrer dans nos démarches éditoriales pour une meilleure indépendance.
Oui, ça veut dire ce que j'appelle aussi beaucoup dans mon livre la coéducation. La coéducation par rapport à l'éducation pyramidale, l'éducation nationale qui envoie la même discipline à plein de gens le plus largement possible. Je pense que de plus en plus, compte tenu de l'accélération de la création d'informations, la coéducation entre les jeunes avec les seniors avec les plus jeunes, va jouer un rôle fondamental. Et donc un public n'est pas juste un public captif, on parle maintenant des consommateurs, pas seulement des consommateurs. Les gens peuvent donner des idées d'émissions nouvelles, peuvent donner des idées de sites nouveaux sur l'Internet, interagir avec vous. Et donc il faut pas seulement envoyer de l'information à ces auditeurs, mais respecter ces auditeurs pour qu'eux aussi vous renvoient de l'information en retour.
Leur proposer d'intervenir.
Ben voilà, le feedback,
d'interagir.
Le feedback citoyen, c'est fondamental.
Exactement. Et si vous avez des idées d'ailleurs pour la librairie francophone, vous communiquez avec nous sur Facebook et Twitter. Je serai ravi d'y répondre et les auditeurs de la librairie le savent. Merci beaucoup Joël de René. La Symphonie du Vivant est parue aux éditions Les Liens qui Libèrent, éditeur diffusé bien sûr dans tous les pays francophones. Vous restez avec nous Joël?
Oui.
Bon, on a été ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Dans un instant, la chronique des libraires tous ensemble pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et le nouveau roman du belge Jean-Pierre Orban. Il va être question du Congo à nouveau. Avant cela, voici le chanteur belge d'origine congolaise justement, Balo G, dans votre librairie.
À la place du cœur, Bakuna boy sangre, can't wait to Bakuna boy sangre. Bakuna, Bakuna, Bakuna.
La bengi yo moni, omega kalo kola yango. La bengi yo moni, omega kalo kola yango. La bengi yo moni, omega kalo kola yango. La bengi yo moni, omega kalo kola yango.
Soleil de vote, néon de lune, la nuit du vote ici. J'ai laissé ma plume. Moi le train de savate, en carton pâte, couché sous le coussin de kilowatt. Mon cœur une dynamo sans fil, ma peau thermolactine.
Il brille comme des bougies sous des soleils de volt.
Il brille comme des bougies sous des soleils de volt.
Ne réagis que par émoji, masqué pour les oiseaux de nuit.
Ne réagis que par émoji, masqué pour les oiseaux de nuit.
La bengi yo moi, on genga kalo kola yango. La bengi yo moi, on genga kalo kola yango.
Soleil de volt.
Il brille comme des bougies sous des soleils de volt. Il ne bouge pas, ne réagit que par émoji, masqué pour les oiseaux de nuit. Il ne bouge pas.
Soleil de volt. Des zéros et des 1 pour neutraliser nos besoins sur des torrents décibels. Les mots font des étincelles.
Balogi avec Soleil de Volt dans la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires tous ensemble pour leur coup de gueule et leur coup de cœur. Annick Dor en Belgique, un coup de gueule du côté du rayon des bandes dessinées.
Oui, alors ça n'engage que moi. Mais c'est vrai que je voudrais insister sur le contraste qu'il y a entre les BD d'auteurs qui ont une belle densité. Alors je pense entre autres à Rujimba, dont on a eu l'auteur à l'émission, la Solène Bardet. Un album qui comprend 285 pages quand même. Oui. Et puis les BD séries avec leur insupportable découpage en 58 pages. Alors le premier tome en général n'est du coup qu'une installation de décor, parfois vaguement une mise en bouche. Donc voilà, moi ça m'insupporte au plus haut degré parce que c'est tellement plus agréable d'avoir en un album un vrai contenu.
Oui, c'est vrai que les séries c'est très compliqué parce qu'il faut suivre, on en rate un et puis après on perd le fil et on arrête et on se retrouve avec 3 BD à la maison alors qu'il y a une collection de 7. Bref, bon, c'est comme ça. Thomas Auxerre, un gros coup de cœur, vous, en France.
Eh ben oui, écoutez, alors Joël, Wilfried, Jean-Pierre, Emmanuel, attention, j'ai un énorme coup de cœur entre les mains. Des histoires pour 100 ans, de Grégory Nicolas aux éditions Rue des Promenades. Moi, c'est un roman qui m'a fasciné. On suit deux lignées familiales à deux époques différentes. Ça se passe en Bretagne, il y a du vélo, ça se passe dans l'Est de la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nos jours aussi. C'est pétillant, ça interroge sur l'histoire de sa famille, c'est très très bien écrit. C'est à l'image aussi de la couverture haute en couleur avec un personnage qui fait du vélo dans la lande. Voilà, je vous invite à le découvrir, vous allez voir, ça va beaucoup vous plaire.
Une vraie découverte.
Une vraie découverte, ouais.
Grégory Nicolas,
et puis un petit éditeur, Rue des Promenades. Ouais. Vraiment, j'invite les auditeurs à aller voir leur libraire.
Des histoires pour 100 ans. Ouais. Merci beaucoup Thomas. Claire Renaud, vous avez un roman chez vous qui vous a particulièrement énervé en revanche.
Oui, Le beau monde de Lormyoun Crozet. Alors c'était bien parti pourtant, parce qu'il y a beaucoup d'ironie. C'est un roman polyphonique et on apprécie ses subjonctifs imparfaits. Sauf que on comprend très vite où veut en venir l'auteur. c'est-à-dire faire tomber les masques de ce beau monde en parlant de quelqu'un qui n'est pas là. Alors, comme dit l'adage, trop d'ironie tue l'ironie, trop de subjonctif imparfait le tue aussi. Et malheureusement, ce qui reste, c'est de la superficialité et de la redondance. Bien. C'est dommage parce que ça aurait été une excellente nouvelle.
Bon, Le Beau Monde, c'est aux éditions Albin Michel de Laure Myoun-Crozet, qui est séoulite d'ailleurs. Elle est née à Séoul, elle vit à Genève. Et puisqu'on parle de Séoul, je vous rappelle qu'il y a une page dédiée à Jean-Marie-Gustave Le Clézio, grand reportage de 45 minutes que nous avons réalisé avec lui sur place, que vous retrouvez sur notre site. Donc merci, merci, la pauvre Laure Myoun. Jérémy Laniel pour le Canada. Coup de gueule ou coup de cœur ?
Un coup de cœur, Emmanuel, sur un recueil de poésie qui s'intitule « Le pays volant » de Daphné Azoulay. C'est publié aux éditions aux Herbes Rouges. C'est le troisième recueil de Daphné Azoulay. Ça se découpe en quatre petites parties. La descente, la promenade, le conflit et l'escalade. C'est une poésie qui a l'air incroyablement simple à prime abord. Et plus on avance dans le vers, plus on avance dans le poème et dans le recueil, on voit tout un monde s'ouvrir en dessous de nous. Il y a une belle ironie, justement, que Azoulay capable d'utiliser sur des thématiques autant que celle de vivre en société. Qu'est-ce que c'est que vivre avec les autres lorsque tout ce qu'on veut, c'est fuir, fuir pour être seul, fuir pour avoir le beau qu'à nous, le paysage qu'à nous. Très, très beau pays que ce pays volant que Daphné Azoulay nous offre.
Notre libraire amoureux de la poésie, c'est Jérémy Laniel. Et donc, son dernier coup de cœur, Le pays volant de Daphné Azoulay aux Herbes Rouges. Merci Jérémy. L'écrivain Jean-Pierre Orban est dans la librairie francophone pour son nouveau roman « Toutes les îles et l'océan ». Le grand voyage continue après l'océan de Wilfried Nsondé. Votre roman est une enquête généalogique et historique, mais c'est surtout un livre sur la recherche de l'identité, Jean-Pierre.
Oui, absolument. C'est l'inverse peut-être du roman de Wilfried. C'est un roman où on ne donne pas trop d'indications géographiques et temporelles. Je l'ai voulu comme ça, en fait, pour différentes raisons. Peut-être une des raisons en écoutant Wilfried Nsondé, c'est que c'est pas mon histoire. Enfin, l'histoire qui se déroule là, c'est pas mon histoire. Et donc, il y a une distance à prendre et c'est la distance qui est prise en somme par l'héroïne. Et voilà. Donc, c'est une histoire qui démarre de fait en Afrique, au Congo.
Voilà. Avec un personnage qui s'appelle Adèle, qui a connu un homme trois jours dans les années 60, trois nuits qui ont laissé des traces et une descendance. Elle va partir comme ça dans une quête désespérée à sa recherche. Elle part seule, sans consulter personne.
Elle part seule et sans rien connaître. C'est une femme qui n'a jamais voyagé, qui n'a pas quitté son arrondissement des musiciens autour de la rue de Rome et qui, parce qu'elle est tombée, comme elle dit, dans ce trou, dans ce vide, qui est peut-être un vide qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même pour une raison généalogique aussi. Son père cachait son identité. Et elle part pour comprendre pourquoi elle part, en fait. Elle part pour retrouver cet homme et aussi pour retrouver la raison pour laquelle elle est tombée amoureuse. Et puis elle part aussi pour donner, ça c'est le plus important, pour donner une histoire et un père à l'enfant qu'elle porte.
Elle se retrouve le long du fleuve Congo, dont on a retrouvé l'ambiance dans notre boîte à son. Écoutez ça. Vous êtes au bord du fleuve, comme Adèle. Mais elle, c'est la violence qu'elle va côtoyer. C'est pas cette ambiance comme ça, assez familiale finalement qu'on entend derrière. Elle est à une époque où il y a une violence considérable et il y a un massacre, il y a un rendez-vous manqué parce qu'elle ne retrouve pas son compagnon et surtout elle assiste à des massacres et ça la détruit encore plus.
Oui, ça l'a détruit. Je ne suis pas sûr que ça l'a détruit. Ça anéantit sa quête, en fait, où elle trouve l'homme. Elle n'a pas le contact avec l'homme qu'elle cherche. La remontée du fleuve, elle est un peu dans l'ambiance qu'on a entendue quand même. Et puis, tout d'un coup, il y a cette rupture et cette rupture d'une violence terrible. Et puis, elle va repartir de cela sans les réponses qu'elle cherchait.
À son retour, Bredouille est encore plus perturbée, finalement, qu'à son départ. Elle se brouille avec sa meilleure amie, Gabrielle, qui était un peu le socle, le lien finalement qui la relie au monde. Son fils Raphaël va naître et elle quitte tout pour la Belgique. Elle va se perdre comme ça dans ses histoires. Elle va transmettre aussi un manque à son fils sans la vérité sur ses racines. La vie est un désastre, Jean-Pierre Orban.
La vie n'est pas un désastre.
Oui, un peu quand même.
Non, c'est-à-dire que c'est...
Bah, si.
Non, la vie est quelque chose où et les lieux et les pays et les terres sont des choses dont on n'a pas les clés et qu'il faut, et ça c'est sans doute l'essentiel de l'histoire, qu'il faut créer soi-même. Ouais. Et en fait, cette femme, elle va chercher là les clés, les lieux qu'elle pense pouvoir donner à son fils.
Oui, sauf qu'elle trouve, elle ne trouve rien du tout, Jean-Pierre.
Ah, elle trouve. Non.
Elle trouve
des lieux, elle investit, elle ne trouve pas au bout. Et puis après, la quête continue.
Ah ben, la quête continue avec Raphaël qui, lui, va partir à Londres. Voilà. Elle va finir en hôpital psychiatrique, hein, quand même, Adèle. Raphaël va à Londres et il évoque, je cite, le flot désordonné de sa vie. Il va échouer véritablement dans un quartier. Il est recueilli par un homme qu'il recueille comme un chiot, ce sont ses mots. Et il est complètement perdu. C'est le désespoir, la déshérence.
Alors, vous racontez une histoire terrible.
Je raconte votre livre.
Que je n'ai pas écrite. Alors,
je l'ai fantasmé, peut-être.
Je vais raconter l'histoire autrement.
Mais non. Vous arrangez avec la vérité.
Non,
là.
Il rencontre.
Vous l'avez écrit, ce livre, Jean-Pierre Orban.
Oui, je l'ai écrit, mais je sais ce que j'y ai écrit quand même.
Je sais ce que j'ai lu.
Il rencontre. Alors, je raconte autrement parce qu'il y a les deux faces de la même pièce. Oui. Hein. Il rencontre un homme avec lequel il va construire une amitié qui, au début, est dure, rude, violente, sadomaso, si on veut.
Bon, là, vous exagérez, non.
Je vais au bout de votre histoire. Et avec qui il reconstruit quelque chose et cet homme va continuer à son tour l'histoire et va la prendre en main. Et c'est une très belle histoire d'amitié et de relation entre deux hommes dont l'un va prendre le relais de l'autre.
D'accord, on va voir les libraires, ils vont nous départager. La France, le Canada et la Belgique. Thomas Auxerre,
oui.
Ouais, ils ont peur de Thomas aujourd'hui.
Non, pas du tout.
Allez-y Thomas, c'est
non,
à vous.
Bah, écoutez, moi Jean-Pierre, j'ai trouvé votre début de livre envoûtant. On plonge dedans hein, d'emblée. C'est une première partie vraiment très réussie. Moi, j'y étais avec Adèle à remonter le fleuve. J'ai bien aimé aussi votre style précis. Alors, j'étais un petit peu perturbé en fait quand le second personnage arrive, on change de pays, de continent. Puis ce qui s'y passe m'a un petit peu sonné. Bon, après, c'est un roman où les personnages sont en fuite. C'est un roman qui m'a vraiment interpellé, qui m'a beaucoup plu. Et puis, une fois qu'on referme la page, ça continue à résonner en moi. Enfin,
oui, parce que c'est dur, c'est terrible. Jérémy Laniel pour le Canada. Êtes-vous d'accord? Jean-Pierre, il me regarde avec des yeux. Je vais me faire étriper. Il va pas me caresser à la sortie du studio. Allez-y, Jérémy.
Plus ou moins d'accord avec Thomas. Si j'avais beaucoup apprécié Vera, il y a quelques années, de Jean-Pierre Orban.
Très bon roman.
Excellent roman. Je trouve qu'ici, les personnages n'ont pas su m'amener avec eux. Hein, la recherche de l'autre reste un peu évidente, sans jamais être poignante. L'écriture est encore là, hein, le Orban a du style. Par contre, l'histoire m'a absolument pas transporté.
Bien. Nick Dor en Belgique, qu'en pensez-vous?
Eh bien, moi, ce qui m'a le plus frappé, ce qui était très étonnant pour moi, c'est que dans les parties du roman, on a des styles narratifs, je trouvais tout à fait différents. On a presque l'impression que c'est écrit à plusieurs mains. Alors, c'est un tour de force parce que c'est vraiment maîtrisé, c'est toujours très, très bien écrit. À la fois, c'est vrai que le risque, c'est peut-être de perdre ou de déstabiliser certains lecteurs. Mais voilà, moi, ceci dit, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu l'impression de lire 3 ou 4 romans plutôt qu'un seul. Finalement, c'est pas mal. On en a pour son argent.
Oui, mais c'est vrai que chaque chapitre concerne un personnage. Et chaque personnage est différent. Donc, il y a un style, il y a une ambiance différente. C'est ça, Jean-Pierre? J'ai bien compris.
Oui,
là.
Alors, vous avez très bien compris. Ah. Et Annick Dor a bien compris aussi. C'est une construction littéraire, parce que je voudrais insister là-dessus. Oui. Il y a une recherche littéraire, il y a un récit, mais une recherche littéraire dans lequel j'ai travaillé vraiment beaucoup la structure. Et donc, chaque partie est différente, le style, les références et les personnages aussi. C'est polyphonique sans que ce soit vraiment de la polyphonie.
Et votre histoire nous emmène donc en France, en Belgique, au Congo et en Angleterre. Et elle nous montre que si on est en marge des villes, si on est en marge de la bonne société, comme on dit, on a une vie qui vrille. Parce qu'elle ne correspond pas au code de la société. Et en même temps, la périphérie, chez vous, c'est une protection.
La périphérie est une protection. En quoi c'est une protection?
Elle protège vos personnages. Mais ils se mettent à l'écart, justement, parce qu'ils sont dans le désespoir.
Alors, est-ce que ça les protège ou ils sont automatiquement à la périphérie?
Et voilà, c'est la question.
Et la question est celle-là, elle est essentielle. Allez-y. De fait, c'est qu'on est Et c'est tout le monde est en périphérie dans ce roman, c'est qu'au centre, il y a un vide. Ouais. Et donc, on doit forcément tourner autour de ce centre qui n'existe pas et jamais ils entrent réellement. Est-ce qu'on n'est pas tous en périphérie? Ça, je n'en sais rien. Ouais. Peut-être c'est ça la réponse.
Faut-il être en périphérie du monde? Joël de René, c'est le seul qui peut nous répondre aujourd'hui.
Moi, je pense qu'il faut regarder les choses d'ailleurs, c'est-à-dire ce que j'appelle l'approche systémique dont vous parliez tout à l'heure avec le macroscope, c'est la possibilité de ne pas s'arrêter sur le détail de l'analyse. Parce que, comme le disait Gramsci, le pessimisme de la raison doit être remplacé par l'optimisme de la volonté. Le pessimisme de la raison résulte du fait que quand on regarde un système complexe, on l'analyse en petits morceaux. Après, on ne peut plus rien réunir. Donc, on voit que tout va mal. Tandis que si on a une vision globale, on prend du recul, on regarde d'ailleurs, à ce moment-là, on voit les choses en interdépendance les unes avec les autres.
Donc, il faut se mettre en retrait de temps en temps.
C'est un autre regard du monde.
C'est ça. Jean-Pierre.
Oui, mais je pense qu'il faut surtout aller dans la périphérie, c'est ce qu'on ne fait pas assez. Donc allons voir d'abord en périphérie avant de parler du centre.
Merci Jean-Pierre Orban. En toutes les îles et l'océan, votre dernier roman est paru aux éditions Mercure de France. Merci Jean-Pierre.
Merci Emmanuel.
Pas si noir que ça le livre.
Un peu, mais voilà.
Pas si sombre.
Il faut aller au cœur des ténèbres et on trouve la lumière.
Merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le groupe Colorie avec un extrait de Madame Tropicale.
Un petit témoin, des mots doux, tendres et délicats, tant que vous ne me mangez pas, cela me va. Pas simplement ces mots fous, attirants et peu banals, qui feront de vous Madame Tropicale, une femme tropicale. Madame Tropicale, une femme tropicale. Simplement que je ne comprends pas. Mais dites-moi ce qui fait de vous Madame Tropicale, une femme tropicale. Madame Tropicale.
Colorie, Madame Tropicale, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci Wilfried Nsandé.
Merci Emmanuel.
Merci Joël de René, Jean-Pierre Orban, à très bientôt.
Merci.
Au revoir à tous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Théo Gomard, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Alice Jacquelin en France, Martine Béguin-Felé et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Leput en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, nous serons au Salon du Livre de Genève en public avec un plateau exclusif. Une rencontre entre Catherine Cusset et Marc Lévy sur le thème de l'Amérique et le nouveau roman de Romain Puertolas avec la suite de son Fakir qu'il vous présentera en avant-première. Bonne semaine, bon week-end, salut.